grand dialogue
sigi kafoba
edo woni wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne biro
halud mawni
chenne biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi 1er août 2014. Merci de nous rester fidèles. Le forum de la presse revient. Parmi les sujets de la semaine, voici ce que nous avons retenu pour vous. Le crash de l'avion de l'Algérie à Gossi, les négociations d'Alger, le virus Ebola. Nos invités, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Yuba Konate du quotidien Inter de Bamako et Lafi Asinaba, journaliste indépendant. Je suis Famoussa Sidibé et Salim Diouara est à la technique. Nous parlons du crash de l'Algérie dans ce premier volet du forum de la presse et aucun survivant parmi les 118 personnes dont un Malien et plus d'une cinquantaine de Français qui se trouvaient à bord du vol AH-57 parti de Ouagadougou au Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont été les premiers à avoir localisé l'épave de l'avion. Elles seront suivies par celle du Mali qui, à travers un communiqué, donne plus de précisions sur le lieu du drame. La souveraineté du Mali a-t-elle encore pris une fois de plus un coup, Célia?
Bonsoir, cher ami, bonsoir à tous les auditeurs. Je ne pense pas, on fait avec les moyens que l'on a, je pense bien. Et il faut rappeler aussi que cette partie de l'espace aérien, d'après ce que j'ai compris, était couvert par les autorités aéroportuaires burkinabées dans le cadre de l'aviation civile, de la répartition du travail au niveau de l'aviation civile. Donc c'est quand même un peu normal, surtout que ce vol venait de chez eux et que c'est eux qui le suivaient. Donc c'est un peu... Je pense que ça n'a rien à voir avec une question de souveraineté, c'est plutôt des questions de technique. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas.
Alors le Burkina était le premier sur place. Est-ce que s'il n'y a pas là un manque de suivi de la part du Mali?
Nous savons que l'armée de l'air malienne manque d'avions, manque d'hélicoptères. Ça, ce n'est un secret pour personne. Pour pouvoir se rendre sur place, il faut en avoir les moyens. Ce n'est pas par la route qui se serait rendue à Gossi dans l'espace des quelques heures qui suivait le drame. Donc, je pense que de toutes les façons, dans une circonstance pareille, c'est les efforts ensemble qui aident à avoir des résultats. Donc, quelque part, moi, à mon entendement, en tout cas, c'est vrai que ça montre que nous avons des lacunes en termes d'équipement au niveau de notre armée de l'air, au niveau des services de secours qui ne sont pas assez équipés et peut-être pas assez formés, je n'en sais rien, pour faire face à ce genre d'éventualité. Et les autres ont montré qu'ils étaient plus près que nous.
Alors, Yuba, je rectifie juste que vous êtes plutôt au Zénith Balai.
Oui.
Voilà. Donc, nous parlons du crash. La France tient les choses par rapport aux enquêtes. Quel est votre avis par rapport à la suite des enquêtes et à la place du Mali?
Merci, Famsa, de me permettre de donner mon opinion sur un certain nombre de questions qui a émaillé la semaine. Moi, je voudrais dire d'abord que notre souveraineté a bien pris un coup. Vous imaginez imaginez un seul instant qu'on soit en France, qu'un avion crache et que... Non, notre souveraineté a pris un coup. Les militaires burkinabés ne peuvent pas être les premiers sur le lieu d'un crash au Mali, sur le territoire malien. Maintenant, on peut le comprendre.
Il y a eu plus d'une vingtaine de morts du côté du Burkina.
Non, ça n'explique absolument rien. Ça n'explique absolument rien. Notre souveraineté a pris un coup. Maintenant, on peut le comprendre parce que nous sommes dans une position aujourd'hui où nous sommes presque à terre. Si l'explication va dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, le Mali est couché, oui, je suis d'accord, et qu'on reconnaît de facto que nous n'avons pas les moyens de réagir. Mais notre souveraineté a pris un coup. Un accident de l'avion qui s'est produit sur le territoire malien à Gossi, les militaires burkinabés n'ont pas à être les premiers sur ce terrain-là.
Mais à partir du moment où le Mali n'a pas totalement le contrôle du Nord, est-ce que vous ne pensez pas qu'il
Je suis désolé, Famoussa, je suis désolé. Notre souveraineté a pris un coup. L'accident s'est produit à Gossi, à quelques kilomètres de Gao. Est-ce que vous pensez que les Burkinabés étaient plus proches de Gossi que... Non. Et je pense que dans la dynamique
les experts disent qu'il est plus facile de se rendre à partir de Ouagadougou sur place que de venir de Gao.
Ça n'engage que les experts.
Lafia.
Bon, je pense que je suis d'accord
totalement d'accord avec Yuba, sauf que je vais encore beaucoup plus loin. C'est scandaleux ce qui s'est passé, il faut le dire. C'est honteux pour un État comme le Mali. Je dirais un État sérieux. Parce que un tel drame ne peut pas se produire au Mali et que c'est des Burkinabés qui soient les premiers à être sur le terrain. Ma sœur a parlé de moins. C'est vrai, il y a ce problème de moins. Mais je pense qu'un État aussi doit se donner les moins. Il était vraiment judicieux pour nous que les militaires maliens, en tout cas que les autorités maliennes, soient les premiers sur le terrain, honnêtement parlant. Et sur ce sujet également, il y a un autre aspect que je voudrais signaler, l'indication du lieu. Tantôt, c'est le président de la République qui informe que c'est entre...
Lequel des présidents ?
Le président de la République du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta, qui dit que... Justement, c'est là où c'est encore plus dramatique. Parce que, admettons qu'il s'agissait des malheurs qui visaient le Mali. On allait chercher le malheur à Aguelhok, entre Aguelhok et Kidal. Entre-temps, on allait être envahi du côté de Goussi. Donc, le moins, à mon avis, on ne doit pas parler en termes de moyens à ce niveau, surtout que nous sommes dans un pays là où on se fait le luxe d'avoir deux avions présidentiels. Donc vous voyez que le problème revient encore.
Alors justement, vous en parlez, le Mali a deux avions présidentiels. On se rappelle l'avion qu'acheté le président Ibeka a fait beaucoup de vagues. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas d'hélicoptère. Le Mali n'a pas d'hélicoptère. Est-ce que vous ne pensez pas que les autorités, on peut le comprendre par rapport à cet aspect, vu qu'il n'y a pas d'hélicoptère
Mais il fallait en chercher d'abord. Compte tenu aujourd'hui de la situation spécifique du Mali.
Ça, vous ne voulez pas me donner la parole, hein, apparemment.
Vous êtes content. Non, c'est bien. Je pense que Yuba a parfaitement raison. Mmh. Je suis de même avis que lui. Et le problème, le moins qu'il a évoqué, je pense que ça ne doit pas aussi se poser. C'est là où je dis que je vais encore plus loin. On devrait se donner le moins.
Journée panafricaine oblige, Célia, vous avez la parole.
Ça n'a rien à voir avec la journée panafricaine, excusez-moi, Famoussa, Yuba et Lafia. Je pense qu'on est en train de parler de deux choses qui sont différentes. Vous avez parlé de la souveraineté du Mali. Le fait que le Mali, sur son territoire, ne puisse pas, soit obligé d'accepter que ce soit d'autres qui viennent à son aide. Mais quand vous n'avez pas... Et moi, je résume le problème à une question de moyens. On n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas d'hélicoptère.
Justement, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est ce problème qui ne doit pas se poser.
Permets que je termine, Lamphia, si tu veux bien. Oui. On n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas d'hélicoptère. Est-ce qu'on aurait dû attendre dans la journée, dans cette malheureuse journée du jeudi 24 juillet 2014, d'aller louer un hélicoptère pour l'armée malienne avant de se rendre sur le théâtre ? Eh bien non.
Monsieur, si je comprends,
le problème,
ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un malheur...
Nous allons partager la poire en deux.
Oui.
S'il y a un malheur...
Qui vise le Mali aujourd'hui, ça veut dire que...
Est-ce que l'État malien ne pouvait pas faire appel à la MINUSMA ?
S'il y a un malheur, on cherche la personne. Quand on crie au secours, c'est pour demander de l'aide. D'accord ? Il y a eu un malheur, il y a eu quelque chose qui s'est passé.
On va continuer éternellement à demander de l'aide aux autres.
Non, là, c'est pour ça que je dis que vous amenez le problème ailleurs. Il y a une situation qui est là. D'accord ? À un instant T, il y a eu un crash d'avion. Loin de Bamako, loin des infrastructures qui permettent de réagir tout de suite. Pour aller là-bas, nous n'avons pas d'hélicoptère, nous n'avons pas de voiture, nous n'avons pas d'avion, nous n'avons rien.
C'est une excuse à mon avis.
Donc on aurait dû attendre de trouver la solution.
Ah, il fallait anticiper.
Anticiper un accident d'avion.
Je parle dans un contexte global.
Lafia, nous sommes à 5 minutes de la fin de cette première période. Yuba, vous aurez la parole. Je voudrais juste que vous interveniez par rapport à la seule victime malienne.
Oui, mais ça, c'est dramatique que ce soit un jeune cinéaste qui avait beaucoup d'avenir et beaucoup de talent qui soit la victime malienne. C'est vraiment déplorable. Mais permettez-moi, Famoussa, de revenir sur un aspect. C'est-à-dire que moi, mon problème, ce n'est pas que les Burkinabés soient sur le terrain. Non, je n'ai rien contre le Burkina Faso. Moi, je suis un peu d'origine burkinabé. Je suis né à Bobo-Dioulasso. Je n'ai rien contre les Burkinabés. Mais que sur le territoire malien...
On n'est pas les moyens.
Mais il y a un autre aspect, il y a un truc que l'Amphia a souligné. Quand au plus haut sommet de l'État, il y a de l'approximation, quand le président de la République fait de l'approximation, Le reste ne peut être que de l'approximation.
Alors,
c'est ça le véritable problème. Il y a un problème de l'hierarchie nationale.
Alors, Lafia, les autorités burkinabées ont permis à certains membres des familles des victimes d'aller sur place. Est-ce que vous pensez que la prise en charge qui est faite aujourd'hui de la seule victime, de la famille de la seule victime malienne, vous convient? Est-ce que cela est convenable?
Oui, dans le cadre de la solidarité, notre pays a été toujours un pays de solidarité. Ça a un niveau assez avancé, donc je pense que ça ne sera que partie remise, surtout compte tenu des circonstances. Et pour dire encore par rapport à ma consoeur bien-aimée que vraiment le problème de moins, ça ne doit pas se poser, il faut anticiper, gouverner, se prévoir. Parce que c'est ce drame-là, ça aurait pu être une autre situation.
Surtout qu'à mon entendement, il y a quand même une base de garde.
Alors Célia n'a pas réagi par rapport à cette question.
Oui, par rapport à Bakary Diallo et à sa famille, j'en profite pour présenter vraiment mes condoléances à Mariam Koné, à la petite Néné et à tous ses proches. Et je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'interne ici au Mali et au niveau des autorités. Mais je pense que chacun de nous peut manifester sa solidarité. Tout le monde connaît Mariam. Et chacun peut, indépendamment de ce qui est fait, de manière officielle, donner un coup de main. Vraiment, ils en ont besoin. Et ne serait-ce que la présence, parce que cette perte brutale et aussi brusque est vraiment très douloureuse. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais je vous avoue que j'ai été vraiment touchée par ce drame-là.
Alors, on le sait, c'est des procédures, de longues procédures pour venir à bout de ce genre d'enquête. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui de la part des autorités maliennes? Quel engagement est-ce que vous souhaitez, Célia?
Eh bien, moi, j'espère que le Mali va vraiment s'impliquer dans cette affaire. Les boîtes noires sont parties à Paris. Il semble que c'est un gendarme malien qui dirige l'enquête. J'espère de tout cœur qu'il ne va pas aller rester dans un hôtel à Paris et laisser les Français travailler, qu'il va vraiment s'impliquer pour qu'on sache ce qui s'est passé. Parce qu'il y a vraiment trop de versions par rapport à cette histoire. On dit qu'on a situé cette histoire au niveau d'Aguelok parce qu'il y a eu une déflagration. Il y a des témoins qui disent qu'ils ont vu une déflagration. Il y a des gens qui parlent du Gossi. Il y a des gens qui parlent d'ailleurs. On parle d'un missile éventuellement. On parle d'une bombe. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Et pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé, il faut que le Mali s'en mêle, que le Mali demande des explications et qu'on s'occupe de cette enquête. On a les capacités. Les gens sont formés pour pouvoir chercher, comprendre, qu'ils s'en mêlent et qu'on aille jusqu'au bout de la vérité.
Non, je pense que sur ce point, il y a des avancées, parce qu'hier, il y a une équipe qui est un officier de la police judiciaire qui est parti avec les premiers prélèvements d'ADN. Mmh. Je pense que les autorités, elles ont commencé vraiment à s'impliquer. C'est une bonne chose.
Yuba, par rapport à l'enquête.
Oui, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on nous dise la vérité. Que les spécialistes qui ont été dédiés à cette enquête-là, qu'ils nous donnent vraiment les bonnes informations, la vérité, qu'on ne mente pas sur ce coup-là encore. Voilà.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de ce forum de la presse qui parlera des négociations d'Alger.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Damana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Damana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
N'oubliez pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani.org et une page Facebook sur laquelle vous pouvez réagir à tout moment avec cette nouveauté. Retrouvez des témoignages vidéo de nos invités tous les jours sur les sujets débattus dans le Grand Dialogue. Nous sommes donc à la deuxième partie de ce débat dédié aux négociations ou pour parler d'Alger. Invité aujourd'hui, Célia d'Almeida du journal du Mali.com, Yuba Konaté du quotidien Zénith Balé, et Lamfia Sinaba, journaliste indépendant. Alors, cette deuxième partie est consacrée au pourparler d'Alger. Certains observateurs pensaient que la rencontre d'Alger allait aboutir à un accord en bonne et due forme. La délégation gouvernementale est rentrée avec une feuille de route qui respective, selon Bamako, des lignes rouges que le gouvernement avait tracées, axées sur l'intégrité territoriale du pays. La montagne a-t-elle accouché d'une souris, Célia?
Je suis d'un avis mitigé sur cette question. J'ai été contente parce que pour la première fois, ceux qui sont en face de nous, parce que c'est comme ça que je le considère, se reconnaissent maliens. Puisque pour la première fois, on a parlé de dialogue inter-malien. J'espère que cela veut dire qu'ils ont définitivement renoncé à leurs utopies. Je l'espère. Deuxième sujet de préoccupation pour moi, c'est le fait que, comme vous l'avez dit, on soit revenu avec presque rien. Cela me fait me demander si c'est le MNLA qui dicte le calendrier, l'agenda de ces négociations. Parce qu'au premier jour, tout le monde se souvient de la sortie de Yeri Maïga, qui disait qu'eux, ils sont venus, c'est pour discuter de la feuille de route. Alors que le gouvernement du Mali était en principe parti pour aller négocier et revenir avec quelque chose. Et on est revenu avec une feuille de route. Alors je me demande si ce sont nos amis des mouvements armés qui fixent l'agenda de ces négociations. Et j'ai cru entendre dire qu'ils avaient demandé qu'on se revoie dans 6 mois. Et heureusement qu'à Bamako, on a refusé cela et qu'on a un peu précipité les choses pour mettre au mois d'août. Ils ont intérêt à ce que ça traîne. Nous n'avons pas intérêt à perdre du temps. Et je pense que cela, j'espère que cela est compris et que au niveau des négociateurs de Bamako, on va vraiment peser dans la balance. Le Mali, on a dit que le Mali est parti en position de faiblesse à Alger. J'espère que cette position de, enfin je ne dis pas faiblesse, mais cette position-là va se renforcer au gré des négociations, puisqu'apparemment, ceux qui soutenaient nos amis d'en face, apparemment commencent à les lâcher. Donc j'espère que cela va nous renforcer et donner du poids à notre voix dans cette négociation afin qu'on arrive, mais très 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 rapidement, Inch'Allah, avant fin 2014, à ce que ce problème soit définitivement réglé.
Yuba, un mot par rapport au pourparler d'Alger?
Oui, moi je pense que c'est déjà obtenir la signature de la feuille de route est une bonne chose, qu'il va falloir être vigilant. Et c'est à l'État malien d'être vigilant. Mais moi, je ne m'enflamme pas, hein, comme l'État, comment dirais-je, les autorités sont en train de s'enflammer comme s'il y avait eu une victoire quelconque. Non. Le plus difficile est à venir.
C'est clair.
Vous connaissez très bien ces gens-là. C'est des gens très aguerris aux négociations, très bien conseillés, souvent par des hauts-dieux. C'est des gens qui ont plus d'un tour dans leur sac. Et les négociations à venir, bien qu'on nous rabâche les oreilles en nous disant oui, les lignes rouges, quelles lignes rouges ont été respectées, tout. Bon, de toutes les façons, il va falloir être extrêmement vigilant par rapport à l'avenir de ces négociations-là. Mais déjà, la signature de la feuille de route est une bonne chose puisque le cadre des négociations est désormais établi. Et je pense que c'est ce que nous voulons. Mais il y a un piège que ces gens-là vont essayer de faire jouer aussi. Parce que vous comprendrez aujourd'hui que nous sommes dans des zones de non-droit. C'est-à-dire que les MNLA est aujourd'hui en train de taxer, de prélever des taxes. Donc les MNLA n'est pas du tout pressé à ce qu'on aille à une normalisation.
C'est ça.
Quoi que les gens pensent.
C'est ça.
Donc l'enlisement et le statu quo arrangent les MNLA. Les MNLA voudraient voir la situation s'amenuiser, que l'on reste dans ce statu quo-là. Ils continuent à prélever des taxes illégalement, à ponctionner les populations, à avoir de l'argent. Et cela, c'est à ça que on doit aussi s'atteler à ce que ces pièges-là, à lever ces pièges-là, bien qu'on soit effectivement un peu coincé par les circonstances, parce qu'après le fiasco de Kidal, il faut le dire, notre position a été énormément affaiblie. Et on avait là l'occasion, n'est-ce pas, de ne pas permettre ou de permettre à l'armée et aux populations de garder nos positions. Et de pouvoir donc rebondir. On l'a raté et Kidal était un fiasco.
Lafia.
Je pense que je vais abonder dans le même sens que mes deux confrères. C'est une bonne chose. Le fait qu'on ait pu adopter une feuille de route, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une fin en soi, à mon avis. Parce que Contrairement aux autres accords, l'une des particularités des pourparlers d'Alger qui vont, on le souhaite, aboutir à des accords définitifs, c'est que on les signait un tout petit peu dans la précipitation. Mais cette fois-ci, on s'est donné le temps de se fixer une feuille de route, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une fin en soi dans la mesure où, quelque part, j'ai l'impression qu'on ne bouge pas. Parce que les lignes rouges établies par le gouvernement, savoir notamment l'intégrité du territoire, le caractère laïque, le caractère indivisible, l'unicité de la nation. Mais d'autre part, le MNLA, on a l'impression que la coordination du MNLA, du HCIA et du MA ne bouge pas. Parce que récemment, lors d'une interview, Mohamed Djiri, vice-président du MNLA, a dit qu'ils continueront toujours à parler de fédéralisme. Or, le gouvernement, à son niveau, continue à parler de décentralisation. Donc, j'ai l'impression qu'on fait quelque part du surplace. On a l'impression d'avancer, mais en réalité, on n'avance pas. Donc, il faudrait qu'on fasse extrêmement attention et de faire tout pour ne pas tomber dans le piège de l'allisme. Parce qu'il faut aller vite, rapidement, mais pas dans la précipitation. C'est très important.
Alors, le gouvernement a été entendu hier par le Parlement sur l'accord sur cette feuille de route obtenue à Alger. Quel sens faut-il donner à cette rencontre avec le Parlement, Célia?
Je pense que c'est une action qui va dans le bon sens, puisque le Parlement est l'émanation du peuple malien et il est important qu'on explique, qu'on vienne rendre compte au peuple malien. Et puisque tous les 15 millions de Maliens ne peuvent pas se réunir dans une salle, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller à l'Assemblée nationale, charge aux députés, à leur tour, de relayer l'information au niveau de leur base. Je pense qu'il est très important de faire cet exercice parce que le Malien se pose énormément de questions sur ce qui se passe. Nous le sentons que notre avenir est en jeu, que ce qui se joue aujourd'hui ne nous concerne pas seulement nous, ici, en 2014, parce que cette rébellion est une rébellion cyclique, que ça fait plus de 50 ans qu'elle est au-dessus de nos têtes. Et cette année, enfin ces dernières années, elle a fait encore plus de dégâts qu'elle n'en a jamais fait. Et si ça doit revenir, ça risque d'être encore pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il est vraiment important que les Maliens comprennent ce qui est en jeu aujourd'hui et qu'ils se sentent impliqués, qu'ils se sentent respectés, qu'ils se sentent responsabilisés dans le processus qui est en cours. Et je pense que d'aller à l'Assemblée nationale, de l'expliquer aux députés, de répondre à leurs questions, cela concourt à cela.
Alors, mais sur ce point, ce que je voudrais ajouter, c'est que je ne sais pas si c'est fait à dessein, mais à Alger, on a dit les négociations vont se dérouler entre le gouvernement et la coordination des trois mouvements, à savoir le MNLA, le HCIA et le MA. Je me dis quelque part que est-ce que ce n'est pas de nature à exclure, à enlever le caractère inclusif qu'on a voulu impliquer.
Et
il faut faire extrêmement attention à ce niveau.
La preuve, c'est qu'il y a eu des groupes dissidents de ces trois qui étaient présents à Alger, qui se sont incrustés dans le truc. Donc il faut vraiment que...
C'est là d'autant pertinent que ça risque d'envenimer la belligérance. Oui. Pour dans la lecture du MNLA, MNLA dit, on a dit les forces belligérantes. Et les forces belligérantes, ça veut dire celles qui ont des armes.
Donc, quelque part, on légitime la prise des armes.
La prise des armes,
c'est ce qui est encore dangereux.
Mais
est-ce
que vous avez dit la dissidence du MNLA et les forces, comment dirais-je, patriotiques qui sont en train aussi de reprendre leur position et d'être dans la belligérance.
Sur cette question, est-ce que les dissidences au sein de ces groupes armés ont une réelle... s'affirme sur le terrain.
Mais bien sûr, les derniers combats qui ont eu lieu, ils ont carrément pris les dessus sur les MNLA, clair.
Mais au-delà de ces
dissidences. Moi, je pense que cet état de fait-là a amené le MNLA à mettre un peu d'eau dans son vin.
Exactement.
Parce que
ils se sentent en position de faiblesse.
Compris. Et désormais, tout le monde sait que... Bon.
Mais même au-delà de cette dissidence, moi, membre du Gandako aujourd'hui, je me dis à Alger, on m'a refusé la parole, parce que en fait, ils ne sont pas signataires. Mm-hmm. Ils ont signé, comme à Ouagadougou, un accord d'adhésion de respect de l'essai qui a été signé. Mm-hmm. Donc je me dis que pour être écouté, il faut prendre les armes. Prochainement aussi, je vais prendre les armes pour être écouté. Donc je pense que ça a été une erreur ou je ne sais pas.
Peut-être qu'ils vont les inclure plus tard.
Bon, en tout cas, une mention particulière en a été faite dans la feuille de route.
Mm-hmm. Oui.
Peut-être qu'il va falloir aussi, comme tu l'as dit, Lanfia, tous ceux qui étaient à Alger, à Ouaga, pardon, devraient en principe se retrouver à Alger. Oui. Cela constituerait une suite logique,
effectivement,
de ce qui se passe. Parce que comme il l'a dit, si moi je n'ai pas pris les armes, c'est pour ça qu'on ne me considère pas, ben je serais tenté d'aller les prendre pour me faire entendre. C'est dangereux.
Alors, François, si vous permettez, il y a un aspect aussi que je voulais souligner. C'est-à-dire qu'il y a un risque réel aujourd'hui pour le Mali, pour l'autorité centrale de Bamako. C'est-à-dire s'ils ne font pas attention, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller signer quelque chose que les gens vont contester ici. Parce que déjà, dans les informations des souterraines que nous avons, c'est que le Premier ministre lui-même est d'accord déjà que la réintégration, par exemple, des ex-rebelles est un fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y a rien à faire par rapport à ces... Ça, ça va être des trucs très, très difficile à faire avaler au Mali.
Il a été question, le R a été bien défini.
Très difficile à faire avaler au Mali.
La réinsertion socio-économique qui n'a pas été question
que de réintégration. On va les faire entrer dans l'armée.
Oui.
Mais c'est ce qui a, excusez-moi, mais c'est ce qui a causé Aguelok, non? On va retourner dans le même schéma?
Justement, le Premier ministre a dit très clairement, a répondu, j'ai regardé un journal télévisé pas très longtemps, les journalistes nous posent la question. Il n'a pas décidé, il dit que oui, si cela concourt...
Non. Donc,
il y a ce risque-là que les populations refusent carrément d'adhérer comment dirais-je,
que dire de l'armée que dire de l'armée malienne.
Les patrons de presse également ont été conviés par la présidence pour la restitution de la feuille de route. Jusque-là, le contenu de cette feuille de route reste assez flou. La communication gouvernementale autour de cette feuille de route passe-t-elle vraiment, Célia?
Ça, c'est question pour un champion.
Question pour Est-ce que vous sentez que le gouvernement communique autour de cette feuille de route assez?
Alors, il y a communiquer et communiquer.
Et convaincre, peut-être.
Je ne veux même pas jusque-là. Dans les écoles de communication, on dit que c'est un message qui va d'un émetteur
à
un récepteur. Si c'est ça, oui. Maintenant, que le message parte de l'émetteur, aille au récepteur et que le récepteur comprenne et adhère. Ah là, je ne peux pas vous répondre.
Lanfia.
Bon, je n'ai pas bien compris la question.
Le Premier ministre et son gouvernement ont entamé une série de concertations pour faire la restitution de la feuille de route. Est-ce que vous pensez que depuis la signature de cette feuille de route à Alger, le gouvernement communique assez bien?
Bon, s'il s'agit de rapporter ce qui a été fait à Alger, je pense que c'est bien en cours, hein, il faut le dire. S'il s'agit de cela.
Mais il y a un problème. Même à ce niveau aussi, on convoque les journalistes, on dit qu'il y avait plus d'une quinzaine de journalistes maliens qui devaient faire le voyage d'Alger. À la dernière minute, on dit à ces gens-là, vous ne partez pas. Et on dit explication, non, les premiers ministres disent, vous ne partez pas. Bon, quand même. Les premiers ministres disent, vous ne partez pas. Mais sans explication, sans autre forme d'explication, le Premier ministre dit « vous ne partez pas » et « vous ne partez pas ».
Non, selon leur entendement, c'est à la presse privée de se prendre en charge si elle veut vraiment être autonome.
Je rappelle que...
Est-ce que d'ailleurs le débat est à ce niveau? J'ai pensé que ça peut être une question de prise en charge, aller à Alger une dizaine de jours, etc.
Non, je ne pense pas que c'est ça.
Et puis,
il y a quelqu'un dans un trou là-bas qui...
Que peut-être aussi qu'on s'est dit c'est une question qui est assez sensible, on va la traiter à huis clos.
Voilà.
Et après, on va sortir le drame, c'est que nous, journalistes maliens, sommes restés à Bamako et on était obligés de prendre des informations sur Jeune Afrique parce qu'eux, ils étaient dans la salle. Vous voyez, donc ça crée une petite dichotomie et nous, comme toujours, on se sent frustrés parce qu'on se dit qu'on privilégie la presse internationale.
C'est que si c'est des journalistes maliens qui étaient...
Notre sensibilité malienne,
La sensibilité malienne, elle a le traitement. Le cas s'est posé à Ouagadougou. Je ne veux pas citer le nom de...
Lanfia, si vous permettez, pas Ouaga, sur le cas présent, ça s'est produit. Elouattan a donné des fausses informations parce qu'Elouattan a lu des informations et les a données dans sa conception algérienne.
Voilà.
Et les journalistes maliens ont repris ces informations-là qui se sont avérées être fausses.
C'est ce qui est grave.
C'est ça les risques. Pourquoi ne pas amener les gens?
J'adhère
à ce que Célia a dit. C'est parce que quelqu'un dans son coin là-bas, entre 14h et truc, s'est assis et dit au Premier ministre, attention. Il ne faut pas amener ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas bons des trucs. Et puis, non, personne ne va.
J'espère que les autorités entendent ce débat. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la dernière partie, la troisième et dernière partie consacrée au virus Ebola.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information.
Rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Rejoignez-nous à travers la vingtaine de radios partenaires du Studio Tamani pour vous informer sur l'actualité des huit régions du Mali, de Kaye à Kidal, en passant bien entendu par Bamako. Nous sommes donc à la troisième partie du Forum de la presse d'aujourd'hui. Cette troisième partie est consacrée au virus Ebola. Nos invités pour en parler, c'est Lia Delmeida du journal du Mali.com, Yuba Konate du quotidien Zénith Balé et Lanfia Sinaba, il est journaliste indépendant. L'épidémie de fièvre hémorragique ayant déjà fait plus de 670 morts en Afrique de l'Ouest, alors qu'un premier cas a été confirmé au Nigeria la semaine dernière, n'est donc pas sous contrôle. Le virus mortel, dans 25 à 90% des cas, se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus de personnes ou d'animaux infectés. Il y a quelques jours, un médecin sierra-léonais très impliqué dans le traitement du virus venu de Guinée-Conakry y a laissé la vie. Alors, aux premières heures, les médecins donnaient 3 mois au virus pour maîtriser l'épidémie. Cela fait plusieurs mois qu'on en parle. L'Afrique est-elle abandonnée à son propre sort, Célia?
Est-ce que l'Afrique est abandonnée à son propre sort? Je ne sais pas trop, je ne le vois pas comme ça. Mon problème me met à un autre niveau. On est en train de hurler à la mort. C'est vrai qu'il y a eu 600 et quelques décès, comme vous l'avez dit.
629 morts,
je pense que, encore une fois, on était en train de parler de souveraineté de nos États au début de ce grand dialogue. Et je pense que c'est encore cette question qui revient ici. Parce que si à chaque fois que nous avons des problèmes, il faut que ce soit la communauté internationale qui viennent faire quelque chose, cela est compliqué. Nous avons des États qui mettent des sommes astronomiques dans le budget de la santé chaque année. Comment est-ce imaginable qu'une maladie, la fièvre Ebola, c'est un peu comme le choléra? Ça veut dire que s'il y a une épidémie de choléra, ça va faire ce que c'est en train de faire là. Et donc ça veut dire que nous sommes en fait complètement démunis face aux situations d'urgence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure concernant le crash. Quand il y a une situation qui ne correspond pas aux petites difficultés que nous gérons au quotidien, c'est fini, nous sommes dépassés. Il faut que les gens nous viennent en aide. Et je pense que, encore une fois, cette épidémie d'Ebola nous met devant nos propres faiblesses, devant nos propres lacunes, devant nos propres insuffisances et nos propres inconséquences. Parce que je ne peux pas comprendre que cette maladie a commencé en Guinée-Conakry. Tout le monde savait comment il fallait faire pour l'endiguer. Personne n'a rien fait. On est resté dans les grands discours. À la frontière, on regarde quelqu'un, on voit son visage, on dit non, toi tu vas bien, il faut passer. Toi tu as l'air d'avoir la fièvre, va là-bas. Comment peut-on endiguer une maladie aussi dangereuse de cette manière? Et on met
que
la vie...
Que fallait-il faire?
Mais écoutez, on ferme les frontières. Je suis désolée, mais il faut prendre des mesures.
Est-ce que cela ne va pas créer un vent de panique?
Mais si ça crée un vent de panique et ça pousse les gens à se protéger, tant mieux. On évite un vent de panique en donnant les bonnes informations aux gens, en allant dans les écoles et en expliquant aux enfants à éviter de faire ceci, éviter de faire cela, lavez-vous les mains. Si vous voyez un animal mort, n'y touchez pas. Et voilà, c'est en donnant l'information, c'est en communiquant, c'est en sensibilisant. Ce n'est pas en se taisant. Regardez, ça fait combien de semaines qu'on est en train de parler de la résurgence de cette maladie? En avez-vous entendu parler au Mali? Nulle part. Mais c'est effarant. C'est effarant. On se dit, mais donc nous, qui sommes lettrés, bon, on le lit, on se dit, ah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais le gars qui est à la frontière à courir malais et qui voit des gens peut-être malades passer tous les jours la maladie. Il y a un gars qui a pris le car ici, cette information n'est pas confirmée, je l'ai entendu dire, qui a pris le car en Guinée-Conakry et qui est parti tomber malade à Lomé. Imaginez le nombre de personnes avec qui il a pris le car depuis Conakry jusqu'à Lomé. Mais il y a un problème.
Yuba, Konate.
de Zénith Balé.
Oui, c'est que aujourd'hui, la logique prise par cette maladie fait peur. Moi, j'ai vraiment peur, quoi. Puisque si on s'en tient aux premières informations et aux premiers cas qui ont été détectés en Guinée, et aujourd'hui faire le point ici, 600 et quelques
mois. 600 et quelques, en 3 mois.
Désormais, c'est l'épicentre de la maladie est en train de se déplacer. Et c'est plus de 4-5 pays d'Afrique de l'Ouest qui sont désormais directement concernés. Ça fait peur. Ça fait peur. Et quelque part aussi, là, on comprend que ce qui devrait être fait dès le début n'a pas été fait. Sinon, la chaîne de transmission aurait été interrompue.
C'est ça.
Donc, c'est une fois de plus qu'on se pose des questions.
Ou alors, on a affaire à un virus mutant. Excusez-moi, je suis partisane de la théorie du complot. On a affaire à, peut-être on a voulu tester un vaccin contre l'Ebola. Il y a eu un virus mutant, on ne peut rien faire. C'est possible aussi. Hein.
La vie.
Bon, généralement, quand je parle de l'Afrique, je n'aime pas accuser l'Occident, la communauté internationale. Mais je pense que, faut le dire, l'Afrique, elle est abandonnée à son sort. Ce n'est pas, parce que je suis quelqu'un qui aime toujours s'adosser à l'Occident, aux autres. Mais je pense que si cette maladie avait, ce virus avait été découvert ailleurs, il allait y avoir beaucoup plus de mobilisation de la communauté internationale que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est dommage, donc la charge, la balle est dans notre camp, qu'on s'organise, qu'on n'attende pas tout de l'extérieur. Ça pose, ça devient une question chapitrale, une situation chapitrale qui est là, face à nous. Donc il faudrait vraiment qu'on s'organise, que le politique africain s'assume. Vraiment.
Alors, Youba Konaté du Zénith Balé, jusque-là, le Mali n'a pas connu de cas confirmés de virus Ebola. Mais est-ce que vous pensez que la méthode malienne a marché et qu'il faut aujourd'hui inciter les autorités à redoubler d'efforts par rapport à la vigilance?
Ah, je crois que oui, puisque jusque-là, s'il y avait quelques cas suspects finalement qui se sont avérés être faux et que jusque-là encore on n'a pas de cas, ça veut dire que peut-être que les méthodes utilisées par les autorités maliennes non. Mais moi je voudrais vraiment
que
les gens...
Ou alors que les gens ne vont pas à l'hôpital quand ils tombent malades.
Je pense qu'il faudrait que les gens restent vigilants. C'est la vigilance, puisque vous comprenez, quand on a des cas suspects au Nigeria, il y a combien de pays entre le Nigeria et les zones affectées. Il faut vraiment être extrêmement vigilant et que la sensibilisation continue, que les autorités continuent à donner des informations, les bonnes informations, que les populations suivent les consignes données par les spécialistes et que les gens, jusque-là, comme cela a marché, on espère que notre pays va être épargné, puisque vraiment, moi, j'ai vraiment peur.
Inch'Allah, comme
dirait l'autre, parce que je ne nie pas les efforts des autorités. Il faut reconnaître que beaucoup a été fait, mais je pense qu'il y a encore des efforts à fournir.
Ouais, et surtout
parce
en termes de communication.
En termes de communication aussi, en termes de contrôle. Je vais vous dire une anecdote. J'ai un confrère, un ami, en venant d'un pays voisin, mais le contrôle qu'il a subi, ce n'était pas de nature à... S'il était porteur du virus, il aurait pu amener. Et il a vraiment donné les détails par rapport à ça. Donc je me dis que c'est une raison de plus pour ne pas baisser la garde. Face à dire qu'on avait des cas suspects qui ne se sont pas avérés, qu'on doit baisser la garde. Il faut maintenir, sinon renforcer. Et saluer les efforts qui ont été consentis par les autorités. Dieu merci.
Justement, par rapport aux efforts du Mali pour maîtriser ce virus, Célia, qu'est-ce que vous pensez de la méthode malienne par rapport au virus Ebola?
Comme ça, je vais vous retourner la question. C'est quoi la méthode malienne par rapport au virus Ebola?
Il y avait eu des contrôles aux frontières.
Oui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on met la main sur le front pour voir si la personne a la fièvre. Bon, je pense qu'il faut y mettre les moyens. Le risque est vraiment énorme. Et vu la façon dont nous vivons, hein, en communauté, en promiscuité, ici en Afrique, et particulièrement au Mali, avec nos grandes familles, imaginez cette maladie qui rentre dans une maison, ces 30 corps qu'on va en sortir, que Dieu nous en préserve. Donc il est vraiment important que le moyen de contrôle soit effectivement mis en place. C'est vrai, au niveau de l'aéroport, on a mis une caméra thermique qui permet de... C'est vrai, mais le trafic, combien de personnes passent par l'aéroport? Ils sont très peu nombreux. Il faut, au niveau des frontières, vraiment doter les agents de santé. Il faut former les agents de santé dans les coins reculés. Parce qu'en général, c'est là-bas, les gens sont confrontés à des situations, mais ils ne savent pas vraiment à quoi ils ont affaire. Il faut renforcer leurs capacités, il faut leur envoyer du matériel, il faut leur donner des moyens de communiquer. Quelqu'un qui est dans une zone où il n'y a pas le réseau, s'il a affaire à un cas, et s'il faut prendre une journée pour aller quelque part, pour aller le signaler, vous imaginez, le mal sera déjà fait. Donc il est vraiment important, c'est surtout au niveau des structures sanitaires, les renforcer de manière conséquente pour parer à toute éventualité. C'est encore ce qu'on disait tout à l'heure. Ne pas attendre que ça survienne pour réagir. Se préparer, prévoir et prévenir ce qui pourrait arriver et surtout communiquer. C'est vrai que les écoles sont fermées, mais on a la télé nationale, tout le monde regarde. Il y a les radios privées, il faut qu'on remette la communication sur le tapis et dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire pour éviter et ce qu'il faut faire si on est confronté à la maladie.
Alors Yuba, Célia parlait tout à l'heure de fermer les frontières. Est-ce que c'est, vous partagez cet avis?
Non, Yuba, j'ai cru comprendre que dans les directives de l'OMS déjà, ça c'est... Former les frontières n'est pas une solution. Je crois que l'OMS...
Le Libéria a déjà décidé de cela.
Voilà, il y a des États qui le font de façon, comment dirais-je,
unilatérale,
mais je pense que dans les consignes de l'OMS, ce n'est pas du tout conseillé.
Surtout avec nos frontières poreuses.
Ce n'est pas une solution. Mais ce que je voulais dire aussi, Célia l'a dit, mais elle n'a pas insisté sur... C'est-à-dire que quand il y a des drames de cette nature, nous, on a tendance à jouer au minimaliste, quoi. C'est-à-dire qu'on compte sur les autres. Nous-mêmes, nous pouvons, à l'interne déjà... Parce que pour des considérations, comment dirais-je, des trucs plus fantaisistes que ça, on arrive à mobiliser autant d'argent pour... voilà. Maintenant, alors que quand il y a des vrais problèmes... on ne voit pas l'argent. Mm-hmm. Bon, pour les fantaisies, on a de l'argent, mais quand il s'agit de la vie des populations, on n'arrive pas à trouver les ressources. C'est ça le problème. Puisque à ce niveau-là, aujourd'hui, nous sommes... cette épidémie a été déclenchée il y a plus de 4-5 mois. Ouais. Bon, jusque-là, on a l'impression que gens... On attend quoi? Je ne sais pas. Que le mal vient nous accaparer. Non, il faut vraiment... On n'attend pas que tout le monde soit malade avant de commencer les grandes solutions. On anticipe sur les grandes solutions. Et moi, je pense que c'est ce que le ministère de la Santé... ils sont en train de faire quelque chose. J'ai l'impression que nous sommes dans les minimales. Voilà.
Je
voudrais peut-être rappeler les dernières informations, les derniers chiffres en date, c'est qu'à la date du 27 juillet, il y a eu 1323 cas, dont 729 cas mortels, selon l'OMS. Et maintenant, selon les pays aussi, il y a 339 en Guinée, 156 au Libéria et 223 en Sierra Leone. C'est les informations que je voulais...
Des chiffres qui font au froid dans le dos. Alors, le Mali, au même titre que les pays africains, a fêté la journée panafricaine des femmes cette semaine. Alors, Célia, vous êtes la seule femme autour de cette table. Nous allons vous laisser le dernier mot pour nous résumer en quelques mots cette journée panafricaine des femmes que le Mali a fêtée.
J'ai beaucoup aimé le thème qui a été choisi cette année, femmes, sciences et technologies. Je pense que c'est un débat d'avenir. Les femmes, c'est prouvé, elles sont plus intelligentes, elles sont plus vives d'esprit et il est important de les former. Je le disais pour rire seulement à moitié. Il est important de leur donner les capacités de faire face à l'avenir. Une femme qui est éduquée, une femme qui est instruite, c'est toute une famille qui est mieux nourrie, qui est mieux prise en charge du côté de la santé et qui voit sa vie même s'éclairer. Donc j'espère que ce ne sera pas seulement des slogans qu'on va balancer pour pouvoir faire la fête avec les jolies pagnes, mais qu'on va s'investir et on va y investir de l'argent parce que la femme, c'est l'avenir.
Ce qui est compris, mais heureusement qu'il y a des hommes pour distribuer la parole. Merci d'avoir été des nôtres. Nous sommes à la fin de cette émission. Le forum de la presse d'aujourd'hui portait sur trois thèmes. Le crash de l'avion de l'Algérie à Gossi, dans la région de Gao. Les négociations, les pourparlers d'Alger. Et enfin, le virus Ebola. Nos invités, Célia Dalmeida du journal du Mali.com, Yuba Konaté du Zénith Balé et Lafia Sinaba, journaliste indépendant. Merci messieurs, merci madame. Pour votre disponibilité, Salim Diouara assurait la mise en onde, Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission et je suis Famoussa Sidibé. Nous vous disons bon week-end.
Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.